Ça fait trois dimanches que je partage avec vous les caractéristiques, les bienfaits du vent de l'esprit dans nos vies. Les deux derniers dimanches, on a parlé du vent de la résurrection. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect du vent. Je voudrais vous parler du vent qui nous dérange. Le vent qui nous secoue. Le vent qui ne nous laisse pas tranquilles. Vous avez remarqué que le vent, vous ne l'avez pas toujours dans le dos. Il y a des chrétiens, ils s'imaginent que parce qu'ils sont chrétiens, le Saint-Esprit va toujours souffler dans le dos. Quelle vie facile. Vous voyez un petit peu sur cette image, c'est un jour de tempête. Et puis, vous voyez bien cet homme à la façon dont il marche et à la façon dont son parapluie est orienté. Vous voyez bien qu'il a le vent dans le nez. Et c'est un vent, comme on l'a chanté, c'est un vent impétueux. Il y a des moments où on dit au Seigneur, tel un ouragan, tel un vent puissant, souffle maintenant. Fais attention parce qu'il pourrait souffler, pas dans le dos, mais en face. Et j'aimerais vous parler un petit peu, grâce à la vie de Samson, j'aimerais vous parler du vent qui nous dérange, qui nous secoue pour notre plus grand bien. Et comment nous devons être sensibles à la direction du vent. Livre des Juges, chapitre 13, versets 24 et 25. C'est le début de la vie de Samson. L'ange de l'Éternel est apparu à Manoac, son père, et à sa femme. Et conformément à la promesse de Dieu lui-même, l'ange de l'Éternel, Dieu lui-même. Verset 24, la femme de Manoac enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel le bénit. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter Samson à Makanédan, entre Tsoréa et Ektaol. L'esprit de l'Éternel commença à agiter Samson à Makanédan, entre Tsoréa et Ektaol. On va, froncez pas les sourcils, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est très simple, ça va être limpide. On va tout de suite regarder la fin de la vie de Samson. C'est pas bien loin. Au chapitre 16 et au verset 31, Samson est mort dans des circonstances héroïques et tragiques en même temps. On en reparle rapidement après. Et une fois qu'il est mort, sous les décombres, il nous est dit, verset 31, « Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre... » Qu'est-ce que vous lisez ?« Tsoréa ». Ça, c'est pas du provençal, hein. Alors, vous lisez comme moi, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Ektaol, dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alors, faites bien attention, cette phrase, elle est importante aussi, je vous en reparle tout à l'heure. Tout est important dans les récits. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ok ? Je vais commencer simplement par vous parler un petit peu de ces noms-là, de ce que ça veut dire. Samson a eu probablement une enfance très agréable, l'enfant grandissait, l'Éternel le bénissait. Il a des parents super, ses parents sont authentiquement chrétiens, ils connaissent Dieu de façon intime et personnelle et pratique, ils le connaissent par révélation, mais le problème de Samson, c'est pour ça que le vent de l'esprit va commencer à le secouer, c'est que Samson se trouve en Juges 13:25, il est à Makanédan. Je vous explique tout ça. L'esprit de l'Éternel, il s'agit bien littéralement du roua, le souffle, le vent. Le vent, alors que Samson avait une vie tranquille et sans histoire, tout roulait d'une certaine façon, le vent a commencé à l'agiter. Vous vous êtes jamais dit, Seigneur, ma vie, elle était tellement bien avant d'avoir cette galère professionnelle. Elle était tellement bien pourquoi j'ai eu cette galère familiale ? Seigneur, pourquoi j'ai eu cette galère matérielle ? Pourquoi est-ce qu'il y a des vents contraires, des vents de circonstances contraires qui se lèvent dans ma vie ? J'étais quand même mieux avant. Il y a des moments, on est dans des petits cocons, tout va bien, et d'un seul coup, le vent commence à souffler, il nous secoue. C'est l'esprit, le roi, le vent, le souffle de l'Éternel qui a commencé à agiter Samson. Et littéralement, il faut comprendre, il a commencé à le battre de façon continue. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « Seigneur, une tuile, ça suffisait pas, il m'en a fallu une deuxième ?» Eh ben oui, on est tous les mêmes. Et en plus de la deuxième, j'ai encore cette nouvelle alors que le premier truc n'est même pas réglé et le deuxième est en cours, j'ai encore le troisième truc et vous vous dites « Non mais ils font exprès, ils se sont ligués contre moi ou quoi ?» Et il y a des moments où on dit « Ça se coud !» Ça se coud. Dieu, le Saint-Esprit, est omniscient, il est omnipotent, il sait ce qu'il fait. Et il est Dieu sur toutes circonstances, même sur les circonstances contraires. L'Esprit de l'Éternel a commencé à battre Samson de façon continue. Ça signifie aussi, ce verbe qui a été traduit par agité, ça signifie être dérangé. Oui, le vent de l'Esprit a commencé à souffler pour déranger Samson. Makanedan, ça signifie le lieu où il est, signifie Dan, c'est dans la tribu de Dan, Tsorea et Ektaol sont des villes dans la tribu de Dan, mais Makané, ça signifie le camp, le campement. Le problème de Samson, c'est qu'il est entre deux. Son père Manoac vient de Tsorea. Tsorea, ça signifie les hauteurs. C'est une ville de Dan, mais sur les hauteurs. Et chaque fois que vous avez dans la Bible des villes sur des lieux élevés, l'Hermon, Hébron, Tsorea, tous ces lieux en altitude nous parlent d'une vie élevée, d'une vie de qualité avec Dieu. Tsorea, c'est les hauteurs, c'est ce qui est élevé. Ektaol, c'est une autre ville de Dan, mais en bas, dans la plaine. Ça évoque la bassesse, c'est ce qui est bas, c'est ce qui est vil. Samson, c'est un gentil petit gosse de chrétien, bien gentil, bien rangé. Et un jour, il ne comprend pas pourquoi. Le vent commence à souffler sérieusement et à souffler de façon continue pour le déranger, pour le battre, pour le secouer. Parce que le problème de Samson, c'est qu'il ne comprend pas à ce moment-là qu'il est en sérieux danger. Oui, Samson n'est pas encore à Tsorea. Et beaucoup de chrétiens peuvent se dire, je sais très bien que je n'ai pas avec Dieu une vie extraordinaire. Je sais que je ne suis pas un aigle, je sais que je ne suis pas sur les hauteurs, je sais que je n'ai pas une dimension de vie, de paix, de joie, de machin, je sais que je n'ai pas ces dimensions-là. Mais enfin quand même, je ne suis quand même pas à Ektaol, je ne suis quand même pas dans la bassesse de ce monde, je ne suis quand même pas dans le marasme, je suis pas sur des hauteurs en la vie avec Dieu, mais en même temps je ne suis pas si mal que ça, je suis entre deux. Vous savez ce que c'est le problème quand on est entre deux ? C'est qu'on tombe toujours du mauvais côté. Et Samson, à ce moment-là, ne réalise pas qu'il est sérieusement en danger. Il ne se rend pas compte que même s'il est dans ses petites bénédictions et dans sa petite vie, dans son petit cocon bien tranquille, il est en danger parce qu'il est dans un entre-deux. Alors le vent de l'esprit va commencer à souffler, à le déranger, à le secouer, à le battre de façon continue parce qu'il faut que Samson se réveille, il est en sérieux danger, sa vie est menacée et Dieu souffle contre lui parce que Tsorea, c'est par là-bas. Et Samson, c'est le type, pardon, du chrétien qui est têtu, qui ne comprend pas les circonstances, qui ne reconnaît pas le vent de Dieu qui souffle contre lui quand il faut, et il s'entête, et il continue, et il va vers Ektaol. Et Dieu dit, j'ai une vie abondante pour toi, j'ai une vie élevée, et quand je permets que ça souffle dans ton travail, quand ça souffle dans ta famille, quand ça souffle dans ta santé, quand ça souffle dans le matériel, quand je te secoue par tellement de circonstances différentes, c'est parce qu'il faut absolument que tu prennes conscience que dans tes entre-deux, tu es en danger, je veux t'entraîner à Tsorea, je veux que tu aies une vie élevée avec moi. La vie de Samson est un terrible gâchis. Samson est mort là où l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter. il était entre Tsoréa et Ectaol. 20 ans plus tard, il est entre Tsoréa et Ectaol. Samson, en vérité, n'a été nulle part. Il a tourné en rond toute sa vie. Alors, c'est un petit peu dur ce que je vais dire ce matin, mais il faut qu'on comprenne, frères et sœurs, que Dieu nous parle par des exemples d'hommes qui ont réussi, et Dieu, dans sa parole, nous parle aussi par des contre-exemples. Il me montre ce qui va se passer en bien ou en franchement moins bien, même en mal, lorsque je refuse de me laisser secouer et réveiller par le vent de l'esprit. Il me montre toute la force et les bienfaits, on en a parlé des bienfaits du vent de l'esprit, que je vais expérimenter dans ma vie par mon obéissance, par ma soumission, par mes choix, mais aussi les conséquences tragiques lorsque je ne vais pas me laisser diriger par le vent de l'esprit. Samson ne s'est jamais laissé diriger par le roi, le souffle de Dieu. Et ça, c'est son véritable problème. Je sais que Samson est connu pour avoir un problème avec les femmes. C'est un gros problème. Mais ce n'est pas son premier problème. Il ne s'est jamais laissé conduire par le souffle de l'esprit. Et malgré ses exploits, il ne s'est jamais laissé conduire par le vent de l'esprit. Je vais vous faire un petit résumé de la vie de Samson juste après. On va dire, oui, mais enfin quand même, il y a eu des actes héroïques, il y a eu des actes de bravoure, mais enfin frère, il y a eu quand même des miracles. Oui, il y en a eu. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, que même si on voit des miracles, même si on est bénéficiaire de miracles, et même si les miracles passent par nous, les miracles ne sont pas une preuve qu'entre Dieu et nous, tout est OK. Les miracles sont l'expression de la grâce de Dieu pour une personne. Le miracle, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une approbation de Dieu. Plusieurs viendront ce jour-là devant moi et diront « Seigneur, Seigneur, les béatitudes, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom ?» Je leur dirai ouvertement: retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. On ne peut pas juger de la vie d'un homme en fonction des miracles qui ont traversé sa vie ou pas. Vous avez, je fais juste une pause sur cet aspect du miraculeux, je ne suis pas sûr, je suis même convaincu qu'on est déséquilibré sur notre compréhension du miraculeux et du surnaturel. Il en faut, hein. C'est biblique. On ne peut pas juger de la vie d'un homme sur les miracles qui sont passés dans sa vie, soit qu'il en a été bénéficiaire, soit qu'il les a exercés par la grâce de Dieu. Parce que c'était des dons de grâce, des dons de manifestation de la grâce de Dieu. On ne peut pas juger de la vie d'un homme en fonction des miracles. Manoac, le père de Samson, était un homme d'une qualité exceptionnelle. Il connaissait Dieu, il a eu une révélation, il y avait un autel, il a parlé avec l'ange de l'Éternel, il y a eu un contact extraordinaire. Manoac était un homme extraordinaire. Il n'a fait aucun miracle. Caleb, Josué, Job, Noé, Daniel, il y a tellement d'hommes dans la Bible qui n'ont fait aucun miracle. Ils n'ont pas tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Hein. Pourtant, Dieu dit, quand il parle de Noé, de Daniel ou de Job, il dit, c'est écrit, vous vérifierez, Ézéchiel 14, pour ceux qui notent, Ézéchiel 14, « Si je devais exterminer un pays, mais que je trouve au milieu de ce pays trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur propre justice. » On ne peut pas juger de la valeur d'un homme sur les miracles qu'il a faits. Alors, oui, il y a eu des exploits héroïques dans la vie de Samson. On va résumer tout ça. Je vous ai fait un aperçu de la vie de Samson, cet homme dont, malheureusement, la vie, la fin a été tragique. Ce n'est pas seulement sa fin qui est tragique. C'est toute sa vie qui est un monumental, un phénoménal gâchis. Et tout commence au moment où il refuse de se laisser conduire à Tsoréa. À partir de Juges chapitre 14, voilà, je vous fais un résumé de la vie de Samson. Samson, il a un signe extérieur de consécration, je vous l'ai dit, mais il n'a pas un cœur tout entier à Dieu. Il résiste au vent. Jamais il ne s'est laissé conduire à Tsoréa, là où Dieu l'appelait, là où Dieu voulait qu'il aille. Vous relisez l'histoire de Samson, il n'y a pas un seul autel. Alors je précise pour ceux qui vont écouter sur Internet, A-U-T-E-L. Il n'y a pas un seul autel, A-U-T-E-L, dans la vie de Samson. L'autel, c'est là où on procédait au sacrifice, c'est-à-dire c'était l'expression de... Maintenant, c'est nous le sacrifice vivant. C'est nous que nous offrons tout entier à Dieu. Il n'y avait pas cette expression de dévotion. Il n'y avait pas cette expression d'adoration. Il n'y avait pas cette dimension du don de soi dans la vie de Samson. Il n'y avait pas cette dimension d'amour, réponse à son sauveur. Il n'y avait pas de reconnaissance. Il n'y a pas un seul autel. Le problème, ce n'est pas qu'on commette des erreurs. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un seul autel dans la vie de Samson. Quand Abraham commet des boulettes et il en a commis des belles, Abraham, il est revenu à son premier autel. Gédéon a élevé un autel. Même Jacob, qui était quand même un gars franchement tordu, il a quand même eu le bon sens à un moment de sa vie d'élever un autel en hommage à l'Éternel, même si c'était très très limité dans sa compréhension et dans sa conception. Pas un seul autel dans la vie de Samson. Vous pouvez tout relire, il n'y a aucun problème, hein, je garantis ce que je dis. Alors ensuite, on a ce que j'appelle, pardon, c'est un peu de la poudre aux yeux. Ah, il y a eu des miracles. Excusez-moi, les miracles, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a faits ? D'accord. Bon. Il y a eu quelques temps forts, il y a eu quelques actes héroïques, mais attention, hein, on parle de franchement ponctuel. J'ai souligné ponctuel. Et en plus, plus ou moins utile. Je vous fais un petit résumé, tout est là. Hein. Juges, chapitre 14, verset 6. Samson déchire un lion. Impressionnant. Maintenant, vous me dites à quoi ça sert. Samson, c'est sûr que c'est saisi par l'esprit qu'il l'a fait. Ok, pas de problème. Un petit peu plus loin, au verset 19 du chapitre 14. Il tue 30 hommes. Bon, c'est à cause d'une histoire avec des compagnons, sa femme, machin, une histoire qui tourne mal. Ok. Ensuite, en réaction à ces événements du chapitre 14, il va causer du dégât dans les champs ennemis. C'est le moment où, vous savez, il attrape 300 renards, il les attache les uns et les autres par la queue, il leur met des flambeaux et il les envoie dans les récoltes des Philistins. Ce texte, par contre, ne dit pas qu'il fut saisi par l'Esprit de l'Éternel. Parce que c'était une œuvre personnelle. C'était une vengeance personnelle sur une situation passée avec sa femme, etc. C'est compliqué. De toute façon, Samson a eu des relations avec les femmes, c'était très compliqué. Et familial aussi. Ensuite, à cause de cet événement-là, il y a un sérieux problème. Ses compatriotes veulent absolument le livrer pour que les Philistins ne se vengent pas. Donc il y a ce récit au verset 14-15 du chapitre 15, où il va briser ses liens, l'Esprit de l'Éternel le saisit, les liens, comme consumés, tombent de ses bras, et là, il va saisir, je ne l'ai pas marqué, c'est ici, si ensuite, il brise ses liens, il attrape une mâchoire d'âne, et il tue 1000 Philistins. Waouh ! Vous lisez la Bible pendant des décennies derrière, et pendant des livres derrière, les Philistins, le problème n'est pas réglé, hein. Il en a tué 1000, bravo. Le problème n'est toujours pas réglé. On va en entendre parler pendant longtemps des Philistins. C'est pour ça que j'ai dit plus ou moins utile. Par contre, quand le Seigneur dit à son peuple, « Ces Égyptiens qui vous ont oppressés, c'est moi qui les gère, vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. » Après la mer Rouge, on n'a plus jamais entendu parler des Égyptiens. Quand il est dit que Caleb a chassé du pays de Canaan, de la terre promise, il a chassé les enfants d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaï, je sais, il y a beaucoup de Provençales ce matin, Shéchaï, Aïman et Talmaï, quand il les a chassés, je vous garantis, ils ne sont pas revenus, ça a été réglé. Ici, c'est pour ça que j'ai mis plus ou moins utile. Ensuite, il arrache les portes d'une ville. Il descend à Gaza. Il rentre chez une femme prostituée. Il recommence. Toute la vie de Samson a été marquée par l'échec, la faiblesse et l'incapacité. La vie de Samson, ce n'est pas une vie de puissance, de force et d'héroïsme. Ce sont des actes ponctuels isolés. La vie de Samson est une vie marquée par la faiblesse, l'échec et l'incapacité. Je sais que ça fait drôle que je dise ça, mais c'est bien vrai, relisez tout. Il arrache les portes d'une ville, vous me dites à quoi ça sert, et il va les déposer sur une montagne qui est en face d'Hébron. Hébron, ça signifie union, communion, intimité avec Dieu. Il avait la possibilité, à ce moment-là, de rattraper le coup. Il aurait pu aller à Hébron. C'était un autre haut lieu qui parlait de communion, d'intimité et de connaissance de Dieu. Eh bien, ce zozo, pardonnez-moi, il a arraché les portes d'une ville et il les a mis sur une autre montagne. Hébron, incontournable dans la Bible, Hébron. Lorsque, pareil, Josué et Caleb rentrent dans le pays, ils ont le choix du terrain. Et Josué dit à Caleb, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Et Caleb dit, « Donne-moi cette montagne, donne-moi Hébron. » Il ne s'est pas trompé. Lorsque David, enfin libéré des persécutions de Saül, se tient devant Dieu, il consulte Dieu. Samson n'a jamais consulté Dieu, pas une seule fois de sa vie. Il a invoqué Dieu pour être délivré, il n'a pas consulté Dieu, jamais. Quand David est enfin débarrassé des persécutions de Saül, il se tient devant Dieu, il consulte l'Éternel et il dit « Seigneur, maintenant, il faut que je règne, ça y est, maintenant ça va être possible. » Dans quelle ville de Juda ? Où dois-je monter, Seigneur ? Et Dieu lui dit, maintenant, tu veux régner ? Tu veux être un bon roi pour mon peuple ? Monte à Hébron. Il y avait Hébron qui était pas loin de lui, Samson n'y a jamais été. Il n'a jamais consulté Dieu. Il meurt de façon tragique, en emportant 3000 hommes, vous avez toutes les références, chapitre 16. Il meurt de façon tragique et il emporte 3000 Philistins avec lui. 1000 et 3000, ça fait, bravo, 4000. Ça fait un bon nombre, c'est bien. Mais le problème des Philistins est toujours pas réglé et on va en entendre parler pendant longtemps. La vie de Samson est marquée, je vous l'ai mis ici, par la faiblesse et par l'incapacité. Il n'a pas cette force de vie, cette force intérieure. Dès qu'il y a une bonne femme qui verse une larme à côté de lui, il devient une grosse lopette. Pardon. Il y a une femme qui pleurniche à côté de lui, il perd tous ses moyens. Il va révéler un secret en Juges chapitre 14. Il va révéler ensuite en Juges chapitre 16 à Delila, il va révéler le secret de sa force. Dès qu'il y a une femme qui pleure à côté de lui, il perd tous ses moyens. Samson est quelqu'un de faible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne se laisse pas animer, porter, remplir. Il ne s'occupe pas du vent de l'esprit. Et plus le temps a passé, plus il s'est enfoncé dans la faiblesse, et plus, d'un point de vue géographique, si vous regardez à la fin de sa vie, il se retrouve à Gaza. Mais Gaza, c'est aux antipodes de ce vers quoi Dieu voulait l'emmener dans notre première lecture. Et il finit par mourir entre deux, loin de son appel qui était Soréa. Alors, le comble aussi de la vie de Samson, je vous ai dit, c'est pas gai ce matin, hein, mais c'est dans la parole, le Seigneur nous en parle, et je pense que Dieu nous montre quel risque véritable nous prenons quand nous nous entêtons, quand nous voulons tout gérer, tout contrôler par nous-mêmes, pour aller dans les directions que nous estimons être les bonnes, quand nous résistons au vent de l'esprit, quand nous ne voulons pas nous laisser courber aux pieds du Seigneur, parce que le vent nous courbe, il ne nous casse pas, mais il veut nous courber, quand il veut nous faire reprendre une bonne direction, quand un vent de circonstances contraires s'est levé contre nous, au lieu de réfléchir, au lieu d'aller dans le sens du vent, on s'entête, mais on s'affaiblit, on se perd, on s'éloigne, on accumule les problèmes. La vie de Samson, je vous ai mis ici aussi, ce qui est tragique, la vie de Samson, ce sont aussi malheureusement des occasions manquées. Ça, on peut le lire au chapitre 15 et au verset 19. C'est juste après qu'il ait tué 3000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et puis, là, il est oppressé par la soif. Alors, il ne va pas consulter Dieu. Il va demander à Dieu de le sortir de sa galère. Et Dieu, dans sa grâce, va agir en sa faveur. Verset 18 même. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Maintenant, mourrai-je de soif ? Tomberai-je entre les mains des incirconcis ? » Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui était à Léchi. Il en sortit de l'eau. Samson but, et j'aime beaucoup cette phrase, son esprit se ranima. Son esprit se ranima, il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Le seul moment où les choses auraient pu véritablement changer, et je crois, je veux être solennel, je veux faire peur à personne, mais je veux être solennel, Dieu nous donne des occasions et nous prenons des risques considérables quand nous nous entêtons. Le seul moment où les choses auraient pu changer, c'est ici. Juges 15, 19, il est à Léchi, Samson invoque Dieu, il boit de l'eau du rocher, il reprend vie, son esprit se ranima et cette source est appelée En Hakkore, ce qui signifie, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, désolé, En Hakkore signifie la source de celui qui invoque. Et à ce moment-là, c'est la dernière fois qu'il est fait mention de l'esprit de Dieu dans la vie de Samson. Eh oui, c'est la dernière fois qu'il est fait mention de l'Esprit de Dieu dans la vie de Samson. Ce qui m'a encore vraiment interpellé derrière, vous savez que le récit n'est pas terminé, puisqu'il y a encore tout le récit avec Delila, et ensuite cette mort tragique, héroïque, dans laquelle il va emmener 3000 Philistins avec lui. Vous savez que l'histoire de Samson n'est pas finie. Pourquoi il y a le verset 20 ? Samson fut juge en Israël pendant 20 ans. C'est fini. C'était la dernière occasion dans la vie de Samson. À partir du moment où il y a plus, où je n'ai plus cette force de l'esprit en moi, pardonnez-moi, je suis fichu. C'est terminé. Pourtant, il y a encore un épisode derrière, à Gaza. L'épisode où il va arracher les portes de la ville. Ensuite, il va aller dans la vallée de Sorek. Il va y rencontrer Delila. Il va y avoir... Combien de temps ça a duré, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il a été juge pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est fini. Même s'il va y avoir encore des événements, il y a quelque chose spirituellement ici qui est terminé. Pour vous donner un exemple, vous savez que la lumière, elle voyage à 300 000 km à la seconde. OK ? Il y a des étoiles qui sont extrêmement loin. Et même si la lumière voyage à 300 000 km à la seconde, il faut quand même, vu la distance, un certain temps pour que leur lumière arrive jusqu'à nous. Et parfois, vous regardez, vous contemplez des étoiles, vous voyez une lumière, vous voyez quelque chose, mais en réalité, l'étoile, elle est déjà morte. C'est exactement la même chose avec Samson. L'étoile est déjà morte. Et ce que vous allez percevoir encore pendant quelques jours, quelques semaines, peu importe, je ne sais pas, ça dépend de la distance, ce que vous allez percevoir pendant quelques temps, c'est le reste d'un passé. Mais l'étoile, elle est morte. L'histoire de Samson, elle n'est pas finie en Juges 16, verset 31. L'histoire de Samson, elle est finie en Juges 15, verset 20. Et c'est pour ça que la vie de Samson est tragique. C'est un véritable gâchis. Parce que tout ce qui se passe derrière, c'est juste un trait de lumière qui reste. C'est les restes d'une étoile qui a brillé pendant un certain temps. Mais... Juge 16, verset 1er, l'étoile est déjà morte. Ça va mal se finir. Verset 2, peu importe ce qui va être dit, l'étoile est morte. Verset 3, peu importe ce qui va être dit, l'étoile est morte. Verset 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peu importe ce qui va être dit, c'est déjà fini. L'étoile, elle est morte. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Vous ne trouvez pas ça grave ? Limite même, pardon, hein, super flippant ? Moi, ça me fait sérieusement réfléchir. Ça me fait sérieusement réfléchir. Alors, on va lire quand même cette fin au chapitre 16. On va prendre à partir du verset 4 et on va voir rapidement quelques conséquences pratiques dans la vie de Samson lorsqu'il n'est pas, lorsque nous ne sommes plus animés par le vent de l'esprit. Je vous ai dit, Dieu nous parle par des exemples, il nous parle aussi par des contre-exemples. Au chapitre 16, au verset 4, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1001 sicles d'argent. » Là, on passe au verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent de leurs mains. Elle l'endormit. Rendez compte un peu. Elle l'endormit sur ses genoux. Attendez, le gars, il arrache les portes d'une ville. Il tue 1000 soldats avec une mâchoire d'âne. Elle l'a endormie sur ses genoux. Le problème, ce n'est pas Delila. Le problème, c'est lui. Depuis Juges 13:25, le problème, ça a toujours été lui. Le problème, ce n'est pas la tentation. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas le monde. Le problème, ce n'est pas la nuit qui s'épaissit. Le problème, ce n'est pas le tas d'immondices et d'immoralités qui s'accumulent dans ce monde. Le problème, ce n'est pas la jolie nana qui tourne autour de toi au travail. Ce n'est pas le beau garçon qui tourne autour de toi à ton lycée. Le problème, c'est que depuis Juges 13:25, tu ne veux pas que le vent de l'esprit t'anime et te fortifie et te conduise. Et là, il est déjà faible, il est déjà cuit. Elle l'a endormi sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Ce n'est pas les Philistins qui ont dompté Samson. C'est une femme toute seule. C'est fou, hein ? Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. La clé de ce passage, frères et sœurs, c'est que il est dit qu'il lui ouvrit tout son cœur et s'est dit trois fois. Son cœur qui n'avait pas été ouvert à Dieu, pas ouvert au vent de l'esprit, parce qu'il n'y avait pas ses autels, parce qu'il n'a pas consulté Dieu, parce qu'il n'y avait pas de vraie consécration, parce qu'il n'y avait pas de vie d'obéissance, parce qu'il n'y avait pas de sensibilité à la direction de l'esprit, son cœur a été ouvert à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est. Le cœur, frères et sœurs, ça désigne mon être intérieur dans la Bible. Le cœur, c'est le siège de mes pensées. C'est mon moi. C'est le siège de ma volonté, de mes sentiments, de mes motivations, de mes décisions. Le cœur, c'est le point le plus important, c'est le lieu stratégique. Mon cœur, c'est la salle des machines. Dieu sait, mais le diable aussi sait. Le diable aussi sait. Que celui qui contrôle le cœur contrôle tout. Tout, même le porte-monnaie. Celui qui contrôle le cœur contrôle tout. Et il contrôle l'avenir. Samson, n'ayant pas réellement ouvert son cœur à ce roi de l'esprit, quand il en avait eu plusieurs occasions, a ouvert maintenant son cœur à la mauvaise personne. On pourrait penser que tout a commencé avec Delila, que Delila, c'est le commencement de sa fin. Mais en réalité, Delila n'est pas le commencement. Delila, c'est juste un moyen, ça ou autre chose. Delila, c'est juste une conséquence, c'est juste un moyen. Le vrai problème, c'est qu'il ne s'est pas laissé conduire par le vent de l'esprit à Tsoréa quand il en avait plusieurs occasions. Et parce qu'il n'était pas animé du vent de l'esprit, il a été incapable de résister aux instances d'une femme. Verset 19, ça m'a interpellé. Elle a commencé à le dompter et il a perdu sa force. C'est même pas l'ennemi qui l'a dompté, c'est juste Delila. Une intermédiaire, un moyen. Quatre choses très simples que dit ce texte. Quatre choses très simples qui sont quatre conséquences dans nos vies lorsque nous ne nous laissons pas conduire par le vent de l'esprit qui nous secoue et qui veut nous diriger. La première chose, c'est que les Philistins le saisirent sans la personne, sans le vent, le souffle du Saint-Esprit en nous. C'est la première chose que j'ai dite il y a un an et demi quand on a commencé toute la série de messages sur le Saint-Esprit. J'ai dit que sans le Saint-Esprit, l'Église de Jésus, bien qu'elle soit l'Église de Jésus, reste faible, pauvre et vulnérable. Et on en a ici encore un exemple, un homme qui reste pauvre, faible et vulnérable. L'ennemi l'a saisi. Il s'est dit « je m'en sortirai comme les autres fois ». La deuxième chose, très simple, mais qui est pourtant révélatrice de ce que l'ennemi fait, ils lui crevèrent les yeux. Désolé, j'ai pas mis ces éléments sur le PowerPoint, mais c'est très simple. La deuxième chose, ils lui crevèrent les yeux. C'est là toujours la première chose que l'ennemi fait, c'est de nous aveugler, afin qu'on soit incapable de se diriger. Il n'y a pas plus vulnérable qu'un aveugle. Si là où tu es, dans tes circonstances, dans tes difficultés, peu importe ce qui se passe ou ne se passe pas autour de toi, si tu ne vois plus rien, si tu ne comprends pas ce qui se passe, si tu ne comprends pas ce qui arrive, si tu ne comprends pas le pourquoi des choses, si tu ne comprends pas le pourquoi, mais aussi pourquoi, dans quel but, Seigneur, dans quel but, pourquoi, pour quel objectif est-ce que le vent a commencé à me secouer et à souffler aussi fort que ça ? L'esprit est un esprit de révélation, c'est un esprit de connaissance de l'Éternel, c'est un esprit qui nous illumine, qui nous éclaire. Sans lui, on n'est absolument rien. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux. La troisième chose qui se passe, quand on n'est pas docile au vent de l'esprit qui nous emmène dans une certaine direction, c'est que forcément, on va aller à l'opposé. Ils le firent descendre à Gaza. C'est très loin de son appel. Il a été embarqué bien loin de sa vocation, bien loin du plan que Dieu avait pour lui, bien loin de l'avenir que Dieu avait pour lui. Et même si, dans sa grâce, oui, Dieu lui a fait remporter une dernière victoire, une victoire, excusez-moi, qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Samson dit lui-même, vous relirez, « Seigneur, que je tire vengeance pour mes deux yeux. » Cette fin est une vengeance personnelle, tout comme le coup des renards était une vengeance personnelle. Mais la grâce de Dieu lui a permis de remporter cette dernière victoire. Je mets des grosses guillemets, c'est une victoire relative avec un goût très amer. Le temps a passé. Tu résistes au vent de l'esprit. Tu t'éloignes de Dieu. Tu es de plus en plus aveugle sur tout ce qui se passe autour de toi. Tu es faible, tu es vulnérable. Tu es dans les ténèbres, dans l'incompréhension. Et tu es lié. Ils le lièrent avec des chaînes. Une autre conséquence dans nos vies, lorsque nous n'avons pas cet esprit de force, cet esprit de liberté, cet esprit de puissance, il n'y a pas de liberté sans le vent de l'esprit. La dernière chose qui est dite, la dernière conséquence, les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza, bien loin de son appel premier, ils le lièrent avec des chaînes et ils tournaient en rond, ils tournaient la meule dans la prison. Voilà une autre conséquence. Oui, on peut appartenir au Seigneur, on peut être chrétien et tourner la meule, tourner en rond, excusez-moi, être la marionnette du diable qui fait mumuse avec nous et qui nous mène par le bout du nez. Parce que Samson, il tournait la meule dans la prison. Il tournait en rond. Voilà une conséquence de ce qu'il n'avait pas accepté d'être conduit par le vent de l'esprit il y a bien longtemps, il y a 20 ans. 20 ans plus tard, on mesure encore la gravité des conséquences dans sa vie. Il se croit peut-être comme beaucoup de chrétiens, qui se croient très suffisants. Il se croit libre, il se croit intelligent. La vérité, c'est qu'on tourne en rond, c'est qu'on rame, toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes limites, toujours dans les mêmes critiques, toujours dans les mêmes défaites, toujours dans les mêmes incapacités, toujours dans les mêmes querelles, toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes choses, toujours, 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 toujours pareil. Voilà la vie, le résumé de la vie de Samson. Je vous l'avais dit, je suis désolé, c'est pas joyeux, joyeux. Hein. Mais le Seigneur, il a mis ça. Donc il y a des textes avec lesquels il me montre ce que le vent de l'esprit va faire, tous les bienfaits, toutes les caractéristiques, on les a vus ensemble. Mais il va me montrer aussi les méfaits et les caractéristiques d'une vie sans le vent de l'esprit. Et Samson en est un exemple criant et incontournable dans l'Écriture. Je termine avec ça. Moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Quand le vent nous secoue, je suis convaincu que c'est, peu importe la forme que le vent prend au travers des circonstances, pour vous déranger, vous secouer, vous mettre mal à l'aise, peu importe. Lorsque le vent souffle contre moi, je suis convaincu, à la lumière de l'histoire de Samson, que c'est pour nous empêcher de nous endormir dans nos entre-deux. C'est pour nous protéger, loin des Delilah, j'ai mis des guillemets, je ne sais pas quel est votre Delilah, attention, on en a tous une. Hein. C'est pour nous protéger, c'est salutaire. Loin des Delilah qui peuvent nous être fatales. Ah, mais évidemment, si Samson avait été à Tsoréa, il ne serait jamais descendu à Gaza. Il ne serait jamais descendu dans la vallée de Sorek. Il n'aurait jamais rencontré Delilah. Vous vous rendez compte, j'insiste, hein, pardon, tant pis, j'insiste. Vous vous rendez compte qu'il y a des moments, il y a des chrétiens, ils sont là avec leur situation professionnelle, ils font des pieds et des mains, quitte à faire des choses douteuses pour aller dans des directions, pour avoir des promotions, pour avoir des choses, au lieu de dire « Seigneur, c'est entre tes mains, si la porte s'ouvre, amen, si elle se ferme, ok. » Et on s'entête et on veut aller là. Mais il y a peut-être des moments dans ta vie professionnelle où Dieu t'a dit « Non, t'iras pas par là, parce que là-bas, sur ton lieu de travail, il y a une nana qui t'attend, ça va être la fin de ton couple. » Et moi, je suis convaincu que parce que je vais avoir 3000 euros au lieu de 2500, ma vie sera meilleure. Je m'entête. Il y a des tas de domaines dans lesquels on s'entête. Et si on ne s'était pas entêté, on aurait été protégé. Il y a des moments où Dieu dit « Non, c'est pour me protéger. Nous protéger loin des Delilah qui peuvent nous être fatales. » Quand le vent nous secoue, vous savez que le vent courbe, vous voyez ces grands arbres, le vent les courbe. Le vent ne veut pas nous casser, mais il veut nous courber à ses pieds. Le vent nous ramène à ses pieds, aux pieds de Jésus. Le vent nous pousse vers les hauteurs de la vie avec Dieu. Le vent nous fait entrer dans l'avenir qu'il a pour nous, dans nos tsoréas personnels. Allez, je termine vraiment avec ça. Si le vent te secoue, peu importe la forme, rappelle-toi, on l'a vu, hein, Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, dit Jésus. Pas où tu veux. Le vent souffle où il veut. Si le vent te secoue, arrête de lui résister. Il sait ce qu'il fait. Demande-toi où il veut t'emmener. Sois sensible et malléable à sa direction. N'oublie jamais que ta consécration, ta communion, ton obéissance, tes choix, la présence, l'onction du Saint-Esprit dans ta vie, c'est ça ta véritable force. Avec ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Sans ça, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Que le Seigneur nous bénisse. Je laisse ça sur votre cœur. Qu'il vous bénisse et qu'il fasse de chacun d'entre nous des gens sensible au vent de l'esprit. Parce que là où il nous pousse, même si ça nous dérange, c'est pour notre bien, c'est salutaire. Amen.